On a vu. Donc, on a vu au début du quatrième chapitre que les 613 mitzvot, les 613 mitzvot sont là pour nous, comment dire, pour nous purifier, pour nous raffiner. Et donc, il dit que toutes les mitzvot de la Torah, c'est-à-dire l'humain, j'essaie de synthétiser ce que nous avons vu dans les premières séances, c'est-à-dire que ce qui définit l'humain par rapport à toutes les autres réalités, c'est la dimension du sechel, de l'intellect, et que toute chose se définit par une action qui lui est spécifique. Donc, quelles sont les actions spécifiques qui définissent la dimension de l'intellect? Ce sont les mitzvot. Alors, il avait rapporté dans le troisième chapitre une Gemara importante, dans le onzième chapitre du traité Sanhedrin, que Adam Lamal Yulad, que l'homme est créé pour le labeur.
Oui.
L'homme est créé pour le labeur. Parce que l'homme est dans comment dire, une perfectibilité constante. Parce que comme il y a un hiatus fondamental entre le sechel et le gouf, entre l'intellect et le corps, il n'y a pas fondamentalement d'harmonie. Quelqu'un qui dit voilà. Un humain de son vivant, il dit, voilà, j'ai atteint l'harmonie. Voilà, nous sommes dans l'harmonie. Bon. Bon. Voilà, comme Fabien, là, il est arrivé à l'harmonie, là.
Oui, ah oui.
Ouais. Alors, c'est soit on a éjecté la dimension de l'intellect, soit on a éjecter la dimension du corps. Étant donné qu'il y a un antagonisme fondamental entre les deux, l'harmonie n'est pas atteignable du vivant. Donc, nous, on n'est pas dans la dimension de l'intellect en tant que tel. Donc, qu'est-ce qui va concrétiser cette union entre l'intellect et notre réalité, ce sont les mitzvot de la Torah. Ça, c'est ce qu'il a défini. Et c'est par les mitzvot que petit à petit, on s'améliore, comment dire, on progresse, on apprend, mais on n'est jamais dans un état statique. Ça, c'est ce qui a été défini dans le troisième chapitre. Les actions spécifiques pour introduire la dimension de l'intellect dans notre existence, ce sont les mitzvot de la Torah. Alors là, ça pose une question que nous avons déjà abordée. Est-ce que sans la Torah, on pourrait atteindre, puisqu'il dit ces dimensions de l'intellect, puisque l'intellect, ce sont les mitzvot de la Torah qui vont faire introduire dans nos actes, dans notre réalisation, dans notre effectif et pas dans notre potentiel, la dimension d'intellect. Alors, on peut se poser la question, ces dimensions d'intellect, est-ce qu'on pourrait l'atteindre par soi-même? Alors ça, c'est un grand débat. Hein. Évidemment, ceux qui ont fait de la philo parmi nous, ils rigolent parce qu'ils savent que c'est une thématique insondable, tellement insondable que j'arrive pas à la sonder. Alors, il ressort que l'humain étant fait de corporalité, la corporalité est le contraire de notre intellect. Donc, par nous-mêmes, c'est impossible. par nous-mêmes, c'est impossible, puisque on est pétri de notre corporalité, qui est le contraire de l'intellect. Donc là, je vous renvoie, c'est ce qu'on avait déjà fait moult fois, à nos auteurs préférés, Monsieur Marx, Monsieur Freud, et j'en passe, et des meilleurs, qui nous ont prouvé de manière éloquente que nous sommes aliénés et qu'on ne peut pas atteindre, on est fonction soit de nos moyens de subsistance, nos moyens de gagner notre vie, ça c'est le bon Marx, ou bien par nos pulsions, par le bon docteur Sigmund. Donc, quelqu'un dit, non, moi, je vais introduire la dimension de pensée dans ma vie. Peut-être ne va-t-il faire que conforter ses intérêts de classe, n'est-ce pas? Alors, ce étant, ça c'était une petite révision pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. On est à la page Tedvav, Adak, Asher, Atza, Hashem, Midbarar, les Akot et Adam. C'est bon? C'est bon les braves?
Yavol.
Arzo. Da, sache. Kasher ratsa Hashem ilbara. Les akot et adam shikne anitzriut al yede mitzvot elokiyot. Yevchar shikne oto rak al yede shne mine mitzvot. Sache que lorsque Dieu, qu'il soit béni, a voulu faire mériter l'homme qu'il acquiert l'éternité par les commandements divins, il est impossible qu'il les acquière autrement que par deux types de commandements. Première partie, qu'il ne change pas l'existence pour laquelle il est créé. Ki im meshane et metziuto asher nivra alav, are yeshlo shinui ma, shu raoui le metziut adam, veyavo efsel le metziuto. Veluem mitzvot lo tase, shekol elu a mitzvot em shelo yetze adam min ma shu raoui en metziuto, kebilat isur ve gezel u gneva, ve keotse baem min a mitzvot. Je traduis. La première partie de ces commandements, que l'homme ne change pas la réalité pour laquelle il est créé. Car s'il change la réalité pour laquelle il est créé, il a un changement d'une certaine mesure de ce qui revient à l'existence de l'homme. Mais il y a vos efsed lemetsiuto, c'est-à-dire qu'il y a une première catégorie, on va dire, c'est pour préserver son intégrité, l'intégrité de sa réalité, car s'il change son intégrité, il en arrive à une déperdition. Ce sont les commandements négatifs. Que les commandements négatifs, et pour que l'homme ne sorte pas de ce qui lui revient à son existence, c'est-à-dire que l'homme a une certaine existence et cette réalité, il peut la perdre. Cette réalité, on pourrait dire sui generis en tant qu'elle-même, il risque de la dégrader, son existence, comme des relations interdites, sexuelles interdites, le vol, la rapine, Kayotse ben minamitzvot et d'autres sortes de commandements. Mais av ki anachnu lo neda tam mitzvot mikol makom neda ba'em shekol mitzvot lo ta'ase em yetzia min ha'yosher ha'metziut ma she'asirel mechayev ha'yetzia min ha'yosher ha'metziut u efsed ve'ibud alav. Av ki anachnu lo neda tam mitzvot. Quand bien même ne saurions-nous pas l'explication des commandements. Néanmoins, nous pouvons savoir que tous les mitzvot négatifs sont sortir de la droiture de notre existence, dans une certaine mesure, de ce que l'intellect impose, et la sortie de cette droiture d'existence est une perte et une déperdition. Deuxième partie, les commandements positifs. Vous voyez, par exemple, on peut très bien, on voit très bien, par exemple, par rapport à Shabbat. Par rapport à Shabbat, tu as deux parties. Tu as la préservation du Shabbat, les interdits de Shabbat. C'est-à-dire que si tu es dans les activités multiples et diverses, le contenu positif que tu pourrais donner au Shabbat n'est pas possible. Donc d'abord, c'est te mettre un cadre dans lequel tu peux exprimer positivement quelque chose. Maintenant, si ce cadre, tu l'abîmes, alors tu ne peux pas exprimer le côté positif. Donc un, c'est Dieu a conçu, selon l'intellect divin, une réalité qui correspond à l'homme. Prenons un exemple. Sans rentrer dans les raisons des commandements. Mais, par exemple, manger des animaux interdits. Manger des animaux interdits. Les Chachamim nous disent, le Ramban, Nachmanide, développe, par exemple, on n'a pas le droit de manger les rapaces. Les oiseaux prédateurs, on n'a pas le droit de les manger. Alors, peut-être que c'est bon. Les Chinois, par exemple, ils mangent des chauves-souris, par exemple, c'est connu. C'est peut-être très bien. Alors, mais des rapaces, c'est interdit de manger. Alors, pourquoi Nachmani dit, parce que il y a un caractère trop caractérisé dans ces oiseaux, dans ces animaux, qui fait que l'homme ne peut pas intégrer la violence qui est dans ces animaux. L'homme doit avoir un certain équilibre que Dieu a conçu, et pas quand tu manges, ta chair se transforme dans ce que tu manges. Donc les caractéristiques physiques, spirituelles de ce que tu manges devient un avec toi. Et il y a des choses que l'homme, c'est trop loin de sa réalité, ça l'amène dans un déséquilibre. Ce déséquilibre, après, il est déséquilibré par rapport à ce que Dieu a conçu, qui est la réalité de l'homme. Alors, la deuxième catégorie, Achalek Hasheni, deuxième catégorie, est mitzvot assez sur le commandement positif. Shekevar Amarnu, qui est Nadab Madregato Acharona Aelokit, Mikeilu ou Bekoar Bilvad. Metzarir shikne ashlemut befal al yedei mitzvot elokuyot. Alors, mitzvot positif, c'est-à-dire nous avons déjà exprimé que l'homme n'est pas dans son niveau spirituel final divin. Donc c'est comme si l'homme est en potentiel. Ah oui, alors monsieur Moïse Felida, oui, il y a des mots clés, je sais pas, tu as l'habitude de faire du Maharal? Mais mets ton micro là, puis je peux t'entendre.
Non, je ne l'étudie pas.
Comment ?
Non, je ne l'ai pas étudié. D'accord. Sinon, avec toi, il y a très longtemps.
Ah oui, alors là, ça fait. Alors, il y a des mots-clés dans le Maharal. Hein, des mots-clés. Alors, bon, là, tous les copains là, qui sont là, on a déjà vu moult fois, mais je mets en relief les mots-clés parce que. C'est très, très important. Tout auteur a une terminologie qui l'a forgée pour... c'est des outils. Et ces outils sont très importants, sinon on ne sait même pas de quoi on parle. Ça ne veut pas dire que c'est le fond de sa pensée, mais ce sont des outils. Alors, je l'ai déjà dit moult fois, donc je m'excuse pour les copains là, qui m'ont déjà entendu moult fois. Qu'il a beaucoup utilisé les concepts aristotéliciens. comme en vérité, comme tous les maîtres de son époque. Ça, c'est quelque chose d'important. J'ai lu dans un livre que le livre clé sur lequel Maharal a travaillé beaucoup, c'est un livre d'un auteur, en Espagne qui s'appelle Rabbi Avraham Shalom, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Nahar Shalom, un livre de Kabbalah, mais toute la terminologie, c'est une terminologie aristotélicienne. Parce qu'il faut savoir qu'elle est, et ça c'est une thèse que je défends tout le temps, qu'en Espagne, à l'école, là-bas, à l'école, ils allaient à l'école, les enfants feuges. Ouais, aujourd'hui, ils vont à l'école. Vous connaissez des enfants qui vont à l'école, non ? Ouais, d'accord, bien. Alors, à l'école, je ne sais pas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend des mathématiques, on apprend SVT, on apprend de l'informatique. Voilà, c'est dans les écoles feuges, c'est ce qu'on apprend, d'accord ? Eh bien, à l'époque, dans les écoles feuges, même orthodoxes de l'époque, même les plus religieuses, dans le cursus de tout le monde, c'était l'étude d'Aristote. C'était comme ça, c'était la base. Tu vas à l'école, tu apprends Aristote. Donc, c'était connu, c'était les bases de la connaissance basique des gens qui étaient allés à l'école, évidemment. Il y a des analphabètes, mais ceux qui n'étaient pas analphabètes, ils connaissaient l'Aristote. C'est comme ça. C'était ni bien ni mal, c'était la réalité. Les gens ne voyaient pas de problème. C'est comme si, dans 500 ans, on va dire, mais vous rendez compte, en France, ils faisaient dans les écoles juives des mathématiques. C'est aberrant. C'est aberrant. Je comprends pas. Ouais, mais dans 500 ans, peut-être on comprendra pas. Mais là, c'était comme ça, c'était la réalité. Donc, le langage en particulier, j'ai repéré, il y a trois livres fondamentaux que le Maharal a sa terminologie, l'éthique à Nicomaque, il y a la physique et le traité de l'âme. Voilà, ça c'est connu, voilà, c'est la base. Fort de ça, donc il y a le mot là qu'il dit, c'est que l'homme est en potentiel. L'homme est en potentiel. Kemo Shet Bayer Lemaala, alors il dit, oui, nous avons déjà dit, et je ne vois pas mes copains là, je ne peux pas étudier si je ne les vois pas là. Michael Chichportich, Philippe Pariset, Damien. Oh, s'il vous plaît, je ne les vois plus. Ah, Michael, Chichportich, on ne te voit pas là.
J'arrive.
Il arrive. Et Fifi Pariset, où est-il?
Il n'est plus connecté, Philippe.
Oh, bon.
D'accord. Voilà.
Bonjour. Allez, on y va.
Ouais, ça va.
Alors, voilà. Les commandements positifs. Achelek Hasheni et Mitzvot Asse sont les commandements positifs. Shekevar Amarnu, nous avons déjà dit. Kien Adam Vemedrek Gato Ararona Elokit. L'homme n'est pas dans sa dimension spirituelle finale, divine. C'est comme s'il était en potentiel. Vitsarir Shekna Shlemut. Il faut qu'il acquiert la perfection. Befaal, dans l'effectif. Donc, c'est le contraire du potentiel, c'est l'effectif ou en acte, on pourrait dire. Par exemple, dans Aristote, on trouve la dimension d'intellect agent. Intellect agent. Donc, ce langage-là, il est traduit en hébreu par Befaal, mais ce n'est pas le Maharal qui a inventé ce langage, hein, Befaal. C'est les maîtres d'Espagne qui ont traduit comme ça. Et ça, je sais que Ashlemut, Befaal, oui, j'insiste là-dessus. Vous voyez, par exemple, là je ne suis pas dans mon bureau, je suis dans le salon.
Dans mon salon.
Là, vous voyez, dans mon salon, j'ai un commentaire sur le Zohar de Rabbi Moshe Cordovero, vous voyez ? Oui.
Oui, oui. Ouais.
Eh bien, le commentaire de Rabbi Moshe Cordovero est entièrement dans un langage aristotélicien. C'est très intéressant. Et ça veut dire que ce n'est pas du tout un philosophe, c'est même le contraire d'un philosophe, si vous voulez. C'est le contraire. Il s'oppose même à la philosophie. Mais c'est comme ça, c'est les outils. Allons-y, dit, voilà. Donc c'est comme si l'homme était en potentiel. Donc par les actions divines, il acquiera d'en acte cette perfection. Comme nous avons expliqué plus haut dans les premiers chapitres. Chez Afi Madame connaît Olamazé à Tivi à Chomari. L'okana olam abba chez nous gashmi qui maliede à peulot et le kuyot. Valiadam iske l'olam anifdal. Que même si l'homme peut acquérir ce monde-ci matériel, naturel, matériel, il n'aurait pas acquis le monde futur qui n'est pas matériel. Seulement par des actions divines. Et par elles, il atteindra un monde séparé du naturel et de la matérialité. Pourquoi ? Parce que le fin mot de notre existence n'est pas dans ce monde-ci. Mais comment peut-on acquérir une part dans un monde qui n'a rien à voir avec ce monde naturel et matériel ? Alors, ce sont par les actions que nous faisons à l'intérieur par notre corps, mais qui introduisent cette dimension d'intellect dans nos actions. Et kasher tilbonem bemetziut olam hazeh, et si tu médites sur l'existence de ce monde, nichlak neshte chalakim kolelim kol hametziut. Si tu médites sur l'existence de ce monde, il est partagé en deux parties qui englobent toute la réalité. Aechad ou hametziut atarton ou beklalo mesudar tachat hashemesh. Vashemesh kolel oto. Donc, reprenons. Si tu médites sur l'existence de ce monde-ci dans lequel nous sommes, l'existence se partage en deux parties qui englobent toute la réalité. Aïchad ou Ametsiut Atarton, première chose, l'existence d'en bas est globalement structurée sous le soleil et le soleil englobe la réalité ici-bas. Qui a Shemesh, Meler, Olam, Ateva, Olam, Ateva, Mesoudar, Tartar. Le soleil est le roi du monde de la nature, et le monde de la nature est structuré sous le soleil. Kemo, She, Timsa, Me voir, Menakatouv, comme tu trouves explicite du verset, She, Kacher, Itse, Lastir, Kol, Olam, quand on veut parler de toute la réalité d'ici-bas, Yomar tachat hashemesh, kedirtiv, comme dit le verset dans Kohelet. Philippe Parizet, comment on traduit Kohelet?
L'Ecclésiaste.
Parfait. Un petit clapping.
Non, je ne mérite pas.
Si.
Merci mon maître. je faillote.
Voilà.
Qu'est-ce que vont penser les autres?
Comment?
Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres?
Alors, Abraham Drogoziner demande quelle est la référence du verset. C'est au début de l'Ecclésiaste, cher ami. Ma yetron le Adam bechol amalo shi'amol tachat hashemesh. Que gagnera l'homme dans tout le labeur qu'il aura sous le soleil? Donc, pour parler de toute la vie humaine, on dit sous le soleil. Et dans l'Ecclésiaste, moult fois, il dit, En kol chadash, il n'y a rien de nouveau.
Sous le soleil.
Donc, pour parler du destin de l'homme sur terre,
vanité des vanités,
sous le soleil, et ainsi constamment. Hashemesh ou Shmirat Seder Olam Ateva Kemalacha Betnuata Ema Sheu Mushlat Baolam Ateva. Le soleil est le gardien de la structure du monde de la nature par son chemin, par son mouvement, dans cela qu'il domine le monde de la nature. Et que moi, Meller, soit chômer et à céder les bilti et tsechal mina céder à raoui, car Hachemesh soit moshel à l'olam. De la même manière que le roi, Kemo chez Ameler, comme le roi préserve l'ordre pour que ne sorte pas une chose de l'ordre qui est légitime. De la même manière, le soleil domine sur ce monde-ci. Comme dit le verset, est à Shemesh les mêmes chelettes, Bayom, comme on dit dans Tehilim, dans le grand Kilolam Chazbo.
Dans les psaumes.
Voilà, dans les psaumes, n'est-ce pas ? Le soleil pour la domination du jour. Alors, c'est très intéressant ici en passant. C'est-à-dire qu'il dit que le roi, sa fonction est de garantir la bonne conduite de la réalité qu'il domine. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le roi, c'est ça, ça fond. J'entends un petit cuicui là, c'est quoi ? Le roi, lui, a sa vocation de faire que ça tourne, que la réalité marche bien. Voilà. Donc, il est le garant de la bonne, que rien ne sorte de la bonne conduite de ces sujets. Ou à Shomer Seder Olam, c'est le garant de la suite du monde. Les Bilti Yachalim Yamir et Seder Araoui, pour que les choses ne s'invertissent pas et ne changent l'ordre qui est légitime. Yamod al omdo, que les choses tiennent, ve davarze yadua meod ben safek bazé. Ziwa chelek arishon. Ça, c'est la première partie. Regardez, ici, c'est très profond. Moi, je dirais, moi, ça m'apprend quelque chose. Parce que là, je vais faire plaisir à notre ami Aurel Medioni de Jérusalem. Bonjour. Je vais te faire plaisir en citant notre ami Ishaya Leibovitch. Bon. Alors, pourquoi Antoine y sourit là, tout d'un coup ? Alors, il y a un point. Il y a un point important dans Ishaya Leibovitch. Un point important. C'est que la politique et l'éthique sont deux choses qui n'ont rien à voir. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Alors, c'est ça, en vérité, c'est ce que dit le Maharal ici. Est-ce que vous l'avez vu dans le Maharal ? Non, tu n'as pas vu là les accents leibovitchiens dans ce que dit le Maharal ? Ça veut dire que le soleil, on dit, est à Shemesh, les mêmes Shelet Bayom. Le soleil, la domination du jour. C'est-à-dire que le soleil, lui, est le roi de la réalité ici sur Terre, dans les mondes inférieurs. Allez, il explique que le roi, sa préoccupation, alors moi je ne dis pas quelle est la préoccupation d'un roi d'après la Torah. Après on peut voir dans un deuxième temps quelle est la vocation du roi d'après la Torah. Mais vous voyez, par exemple, je sais pas, là, parmi l'assistance, disons, il y a quelques juifs pieux quand même, quelques-uns, je ne sais pas, je ne donnerai pas de nom. Mais disons, moi je m'inclus là-dedans, pour nous les juifs pieux, ça nous paraît aberrant, par exemple, qu'un gouvernement aide des mouvements LGTM.
Comme ça. Hélas, hélas.
Hein? Non, tu vois, ah, voilà, je l'ai trouvé le juif pieux. Voilà.
Pourquoi? Donc là,
comment?
Pourquoi?
Ah oui, parce que ça paraît,
je comprends rien,
pour moi, une dégradation spirituelle, ouais, suicidaire.
Oui.
Bien. Alors, mais ce n'est pas la préoccupation d'un gouvernement. Un gouvernement a une préoccupation de paix sociale. Je vous donne un exemple que j'ai discuté avec mon épouse ce Shabbat. Elle est en train de travailler sur un sujet qui n'intéresse personne, mais je vous le dis quand même, sur les Juifs en Hongrie au fil des siècles. Bon, ça ne vous intéresse pas, moi non plus. Mais mais par exemple, au début du XXe siècle, il y avait en Hongrie 5% de juifs de la population et 50% des médecins, c'était des juifs. 50% des pharmaciens, c'était des juifs. 50% des avocats, c'était des juifs. 60% des journalistes, c'était des juifs. Alors, vers les années 1920, le gouvernement hongrois, dans les universités, a fait un numerus clausus. C'est-à-dire, pas plus dans les universités que 5% de juifs. Alors, nous, on dit, c'est des mesures antisémites. Mais d'après ce que je vois dans le Maharal, non, c'est normal. Tu fous ton pays en l'air. C'est une minorité qui te bouffe 50% des trucs, si tu ne peux plus gérer ton pays. Je ne suis pas antisémite, mais si tu me donnais à gérer un pays, je dirais pas plus de 5% de juifs dans les universités. Je ne suis pas antisémite, mais c'est simplement, je suis un roi, j'organise le pays.
Et donc, il ne peut pas intervenir sur le degré de spiritualité des gens, hein?
Je ne sais pas. Non, mais c'est...
Enfin,
je ne suis pas du tout antisémite. Moi, c'est pas du tout
antisémite. Je trouve ça totalement sensé qu'on
utilise
la gay pride à Jérusalem.
Simplement... Un roi, et c'est ce qu'il dit le Maharal, un roi, il doit faire que son pays, il y ait une paix sociale que les choses aient soit leur place. Tu as une minorité qui prend trop de place et qui phagocyte tout le reste, il n'y aura pas de paix sociale.
Ben c'est le cas de la France.
Moi, d'accord, je parle...
Avec les Arabes. Est-ce que le gouvernement, il instaure un numerus clausus de 5% d'Arabes, pas plus?
5% d'Arabes, pas plus, dans les supermarchés?
Où?
Pas plus de 5% de caissiers ou de caissières à Intermarché arabe. Voilà.
C'est tout.
Voilà. Sinon, alors, OK. OK, mais c'est... Philippe, est-ce que tu as compris que c'est un exemple, ce que j'ai dit?
Oui, j'ai bien compris.
D'accord. C'était pas un déclin. C'est un exemple. C'était pas
une
déclaration politique. Tout ça pour dire qu'ici, il y a un élément qui est important, c'est que le roi, et c'est comme le soleil. Le soleil est un ordre de la nature. Cet ordre de la nature est un équilibre subtil et qui ne doit pas sortir de cet équilibre. Voilà, c'est ça la fonction du roi. Donc moi, j'entends que la préoccupation, c'est pour ça d'ailleurs que les lois des nations peuvent, une chose qui peut être interdite et condamnable en pénal, prenons un exemple, jusque, je ne sais pas s'il y a des juristes parmi nous, oui, monsieur Arnaud, notre jeune juriste, par exemple, jusqu'aux années, je ne sais pas, 60-70, l'adultère était considéré une faute, non?
Oui, un délit.
Un délit jusqu'à quelle date environ?
Oh, ça a dû, bah, c'est comme l'homosexualité d'ailleurs, ça a été dans les années.
Ne parlez que de ça, donc je veux changer de sujet.
Non, mais l'homosexualité est un délit jusqu'à Giscard, adultère peut-être jusqu'à Mitterrand.
Voilà, d'accord. Donc, quelque chose qui est considéré un délit, après, peut changer. Pourquoi ? Selon l'équilibre de la société. Si la société, finalement, change, les lois changent. Ce qui est légitime. Parce que ça, c'est ce qu'il dit Leibovitch. Parce que la politique, c'est de la gestion de la société. Ce n'est pas de l'éthique. Tu peux dire, ah, mais ce n'est pas moral. On s'en fout. La morale, ce n'est pas le sujet. C'est un problème de gestion de la société. Voilà. Maintenant, disons qu'il y a un roi juif, comme il y a eu le roi Shaoul, le roi David, le roi Yoshiaou, le roi Chizkiaou, etc. Et nous attendons le Mashiach. Quelle va être sa fonction ? Alors ça c'est un truc à analyser, à travailler. Est-ce qu'il a une fonction spirituelle ou une dimension laïque ? C'est un travail.
Ah, Isaac, Mérida,
oui.
Le fait qu'il y ait toujours à côté du Melech un Navi, c'est deux rôles différents, ça va dans ce sens, non ? Enfin, le Navi, c'est un peu le
conseiller spirituel.
La parole d'Hachem dans le gouvernement, mais détaché sur une personne. On aurait pu penser que c'est le roi qui est Navi. On voit bien que dans le système, il y a deux postes différents. Donc ça va dans ce sens, ce que vous disiez, qu'il faut une personne qui organise l'État, le roi,
voilà.
et le Navi va, enfin, plus externe.
Voilà. Alors, comment ça s'articule l'un avec l'autre ? Comment ça s'articule ? C'est un point qui n'est pas, si vous voulez, qui n'est pas travaillé ici, donc je ne vais pas m'engouffrer plus que ça. Mais simplement qu'a priori, un roi est laïque. C'est un laïque. Voilà. D'ailleurs, nos maîtres disent qu'on ne doit pas habiter dans une ville dont le maire de la ville est un Talmid Chacham. Pourquoi ? Parce que sinon, la ville, elle sera un cafouillage. Un Talmid Chacham, il a une priorité, c'est d'étudier la Torah. Ensuite, il y a le reste. Or, le maire d'une ville, il a une priorité, c'est que sa ville, elle fonctionne bien. Donc, il faut pas que ça soit un Talmid Chacham. N'habite pas, les Chachamim n'habitent pas dans un endroit des riches mata Talmid Chacham, que le maire de la ville, c'est un Talmid Chacham. Quoi ? Aurel, le micro.
Ah, tout est dit là.
J'entends pas, Aurel. Bon, ok. C'est bon. En tout cas, ici, tout ça pour dire que le soleil est le roi. Dire que c'est le roi, ici le Maharal, de manière extrêmement précise, nous définit le roi, sa fonction. C'est que les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent. Oui, Aurel, tu me demandes la référence. Je ne sais pas par cœur, là, maintenant. Blinader, je vais retrouver. OK. Alors, continuons. Ça, c'est la première partie.
Excusez-moi.
Oui.
On peut aussi voir peut-être d'ici que pour le Maharal, le système, il est héliocentré. Que déjà, c'est clair que ce n'est pas une conception géocentrique en disant que la Terre est au centre du système, mais pour le Maharal, ça a l'air clair que c'est bien le Soleil qui est au centre de la Terre, ce qui n'était peut-être pas évident dans son époque. Là, pour lui, ça a l'air d'être clair que c'est le système.
Intéressant, ouais. Ouais. Très intéressant.
D'accord, voilà. C'est un acquis pour lui, d'accord.
Très bien.
Le soleil, s'il n'y a pas la lune, ça ne marche pas.
Comment ?
Le soleil, tout seul, ça ne marche pas. Sans la lune, ça ne marche pas.
D'accord.
Okay. La Terre, elle est ce qu'elle est, qu'il y ait ce couple. d'un roi soleil et d'un régulateur qui est la lune.
Un contre-pouvoir. Alors, Achelek Hasheni. Alors, premier élément, c'est le monde de la nature qui est régenté par le soleil. Achelek Hasheni ou à Adam Bilvad. Deuxième partie, c'est l'homme. Shuchelek Sheni Neged Kolametziut. Qui est une seconde partie englobant toute la réalité. Shobifne Atzmo Eno Nichlal Imshar Animseim. Que lui en tant que tel n'est pas inclus avec les autres êtres existants. Share Bishvil Adam Nivra Akol. Car pour l'homme, tout est créé. Ve Erie Nichlal Aived Imadunav. Donc, puisque toute la réalité est créée pour l'homme, comment l'esclave peut-il inclure avec son maître? C'est impossible. Le fika ou chelek bifnatso. L'homme, donc ça c'est, on sait, ça c'est l'homme, le on appelle ça l'homme.
Ah ouais?
Homonculus, comment on appelle ça? Un monde en tant que lui. C'est un monde en tant que lui. Vugamken nichlak min chelek ametziut arishon asher lo yeshno sidram asher nivra alav. Aval lo iknu gamken davar mala nosaf al atzmam rak em nisharim baviatam kemo shenivrau kemo shenidber beperek shlishi. Donc, il dit toute la première réalité. Ce qu'ils sont. Mais nisharim baviatam, mais restent dans leur existence comme ils ont été créés. Adamazé, Shuachelek Hasheni, Efchar Shetse Minaseder Raraoui. Mais l'homme, qui est la deuxième partie, il est possible qu'il sorte de la structure normale. Aval Adam ou Kone Mala Yoter Mema Shayalo, Kemo, Shashemesh ou Meler. Il dit l'homme, il est possible alors, étant donné qu'il est différent de la première réalité, il est à l'intérieur de la première réalité, mais quelque part, il n'est pas inclus complètement de la première réalité, en cela qu'il peut acquérir une réalité supérieure de ce qu'il avait au départ. Mais Kemo Shashemesh Umeler, de la même manière que le soleil est roi, Gamken Adam Umeler, l'homme aussi est roi, Shari Akon Natun Tartav, parce que tout est sous le magistère de l'homme, puisqu'il a dit plus haut que toute la réalité existe pour l'homme. Malrut Adam i shumolir shlemut el kol atartonim, kakol nivra la vod a Adam ou le shamsho, basé utsura el kol atartonim ou molir shlemut el akol kemo ameler shum ashlim et akol. Donc l'homme aussi est roi, en cela que tout est sous lui. Mais la royauté de l'homme est différente. Il amène la perfection à tous les êtres inférieurs, car tout est créé pour servir l'homme et à son service. En cela, il est la structure, la tsura, ça c'est un des termes clés encore du Maharal, il est la forme de toutes les réalités inférieures et amène la perfection à tout, en cela que le roi parfait toute réalité. Donc ici, donc le Maharal toujours dans sa pensée paradoxale. On était bien content dans cette histoire du soleil, on commençait à faire dodo. Et là, tout d'un coup, paf, il dit l'homme, il embrouille tout ça, en cela que l'homme est une réalité en tant que telle autonome, et aussi le roi de toute réalité inférieure, parce que le roi n'a pas que comme fonction, n'a pas que comme fonction de régenter la réalité dont il est le roi, mais aussi d'amener la réalité inférieure à un but et de parfaire cette réalité inférieure. Donc, Adam est feranim saïm. L'homme est contraire des autres réalités existantes. Adam est feranim saïm. Donc ça, c'est une phrase clé. L'homme est le contraire des réalités existantes. Shekol anim saïm tachat Hashem enam kolim ma'ala alma shenivra'u. Car toutes les réalités inférieures n'acquièrent pas un niveau au-dessus de ce pourquoi ils sont créés. Lo yetsu gam ken meseder haraoui. Et toutes les réalités ne sortent pas d'une structure qui leur revient. Vadam connaît mala yoter mema sheu shaya. Or l'homme acquiert un niveau supérieur de ce qu'il était au départ. Aval ou yotse mina seder. Donc l'homme fondamentalement sort de la structure du monde. Donc là, il y a un hiatus. C'est que l'homme n'est pas de l'ordre de la nature. Donc là, si vous voulez, bon, c'est ce qu'on dit, l'opposition nature-culture. Aujourd'hui, c'est très intéressant. Aujourd'hui, dans la pensée, vous lisez un journal un peu bobo, hein, je ne citerai pas de nom. Sortons de l'opposition nature-culture. Mais est-ce qu'on peut sortir de cette dichotomie ? Alors c'est ça. Il dit l'homme fondamentalement est une opposition aux autres réalités. En cela que l'homme étant dans un projet. L'homme est dans un labeur constant, une perfectibilité constante. Donc l'homme sort de la structure.
Oui, il sort de quelque chose de formaté.
Voilà,
de formaté. Tout est formaté. La montagne, c'est la montagne. Le moustique, c'est le moustique. Ce sera toujours comme ça. L'homme... Il est tout le temps en perfection, en évolution,
tout en étant à l'intérieur de cette structure.
Complètement, il est dépendant du soleil, de toute manière. Hein.
Voilà, il est dépendant du soleil. Il est à l'intérieur de la structure, en opposition fondamentale à cette structure. Donc c'est mal barré, là. On sent que c'est mal barré. Vous avez remarqué là, hein?
Et comment vous bizutez?
Comment? Là, c'est en présence.
Ça m'intéresse. Comment vous bizutez?
C'est catastrophique.
Non, j'attendais une remarque de Philippe, mais bon, il n'y a pas eu. C'est pas grave.
Ouais, non, je me suis abstenu. Faut pas dire de bêtises.
Non, mais là tu vois, là, regarde.
C'est
là,
ça qui m'étonne de toi.
C'est toi, le créant.
Donc là, on voit là vraiment, là, c'est le Maharal, il nous expose des choses qui sont très, très posées et tout de suite, il met un coup de pied dedans. Voilà, ça, c'est typique. Là, il nous a posé
le
soleil et il dit, il y a une autre dimension autonome, tout en étant aussi sous
le soleil,
mais une réalité autonome qui est la réalité de l'homme, qui quelque part est en opposition structurelle à cette première dimension et qui a une deuxième fonction de roi, qu'un deuxième roi quelque part, deuxième fonction, en cela que le roi amène la réalité qui lui est sujet à une perfection. Il est mashlim, la metziut. Il amène un sens, un but, une raison d'être à la réalité inférieure qui lui est inférieure.
Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, en termes de physique peut-être, tout est une question d'électrons, de neutrons et de choses comme ça. Et ça ne bouge pas, parce que si ça bougeait, ça serait la fin du monde. Il n'y aurait plus de structure stellaire. Et l'homme, c'est l'électron libre, alors.
C'est ça. Et c'est grâce à cette liberté qu'il va... C'est grâce à cette liberté, au fait qu'il ne soit pas déterminé, qui va donner un sens à l'ensemble. Ouais. Qui va le donner, oui ou non. Parce que l'homme, par cette capacité ouverte qui lui est donnée, il peut chuter. Tandis que un aigle sera toujours un aigle. Oui. Et un cheval sera toujours un cheval. Mais un homme, il peut être non défini.
Comme disait Brassens, quand on est con, on est con.
Oui, qu'est-ce que tu as apporté là à la réflexion ?
Il est fini.
Il restera toujours ce qu'il est, quoi.
Voilà, d'accord, merci. Alors, mais Kacher,
c'est un vœu pieux de penser qu'on va retrouver sa place à l'intérieur de l'équilibre de la nature. C'est quand même pas mal à la mode de se dire.
Donc mais d'après ce que dit le Maharal et ce qu'il affirme, c'est structurellement impossible. Voilà, c'est structurellement impossible. Ça, c'est pour nous, c'est important, hein, parce que aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, la pensée dominante, que l'homme doit trouver sa place au sein de la nature. Ça, c'est vraiment la pensée. Pourquoi ? Parce que c'est aussi, c'est ce qui est la difficulté, c'est qu'aujourd'hui on a une pensée gestionnaire, on a une
pensée de gestion.
Je ne suis pas spécialiste du tout, mais disons, notre ami Nietzsche disait, il appelait ça le fait de penser, c'est ne pas être contemporain. Comment il dit ça ?
Il a un mot pour actuel. Dire ça.
Inactuel. Ouais, inactuel.
Penser d'un inactuel.
Voilà, penser d'un inactuel. Or, on peut remarquer que, je ne sais pas si peut-être vous pouvez me renseigner, mais je n'entends pas de pensée aujourd'hui. Toute pensée aujourd'hui, il y a une pression, elle doit être actuelle, gestionnaire. Ça veut dire, il faut être féministe, il faut être écologiste, il faut être... Et aujourd'hui, comme on dit, le cochon, il montre ses doigts qui sont fendus, il faut montrer qu'on est pour l'équilibre de la planète, pour l'équilibre de la nature. Or, l'humain, fondamentalement, est en opposition avec le naturel, dit le Maharal. Voilà, il dit ça, c'est structurel. Je reprends les mots parce que c'est extrêmement important. À Adam, je reprends la phrase, c'est la sixième ligne avant la fin de la colonne de Telvav. Adam est fer animsaim. L'homme est le contraire des réalités existantes. Car tous les existants sous le soleil n'acquièrent pas de niveau supérieur à ce pourquoi ils sont créés, à leur réalité créée. Et d'un autre côté, ils ne peuvent pas sortir de l'ordre qui leur revient, ils ne peuvent pas bouger. Adam connaît mala yoter me machaya. Or, l'humain acquiert un niveau supérieur de ce qu'il était. Donc, il a la capacité de sortir de l'ordre qui lui revient. L'humain est déstabilisant par structure. Et quand Chéranovim a eu Mochirim et Israël, a eu Mochirim Otam et Dvarim Ativim, quand les prophètes faisaient des remontrances à Israël, ils leur faisaient des remontrances dans des choses naturelles. Comme dit le prophète Ishaya, ça c'est dans la Haftara que nous allons lire Shabbat Chazon, le Shabbat avant Tisha B'Av. Yada Shor Koneu, et la suite du verset, Monsieur Shishportish.
Et vous Baalav, mais j'ai plus sujet.
Le Chamor.
Chamor et vous Baalav.
Le Chamor à vous Baalav. Le taureau connaît son propriétaire et l'âne, la mangeoire de son maître. Ou Moshe Adon Kolanevim Amar et Moïse, le maître de tous les prophètes, ne disait-il pas Azinu Hashamaim, écoutez les cieux, Vamou à Sifri, mais Sifri, on dit là-bas, dans le Sifri. Amar Lahem, il leur a dit Istaklou Bashamim Baharetz. Regardez les cieux et la terre, mais kol asher ba masher barati la shemesh etrem. Regardez les cieux, la terre et tout ce que j'ai créé pour vous servir. Ve'en la'em sachar ve'onesh. Et ils n'ont pas de récompense et de châtiment. Ve'em lo shinu midatam. Ils n'ont pas changé leur démarche. Ritem ha'shemesh oler la mizra. As-tu vu le soleil qui se couche à l'est? As-tu vu qu'on est semé sur la terre du blé et que ça donnait de l'orge? Vous, si vous accomplissez les commandements de Dieu, vous avez une récompense. Et que si vous n'accomplissez pas les commandements de Dieu, vous recevez un châtiment à la rat kama ve kama, raison de plus. Omnam malato aliede amasim aelokiim kemo shelbaer lemala. Donc, me semble-t-il, il veut dire que l'homme a une structure. Cette structure, ce pourquoi il est créé, c'est-à-dire l'âne est créé pour ce pourquoi l'âne est créé. Le taureau pour ce pourquoi le taureau est créé. Le blé pour le blé. L'orge pour l'orge. Maintenant, l'humain a aussi une structure. Cette structure, c'est ce qu'on a dû dans le troisième chapitre, qu'il soit investi dans les commandements divins de Dieu qui vont lui donner sa position, sa réalité. Or, quand l'homme est perfectible justement par ses actes divins, et dans une mention de perfectibilité, donc il a la possibilité complète de sortir de sa structure. Alors, c'est ça, dans l'humain, il y a deux dimensions. Il y a une dimension de perfectibilité et une dimension aussi de structure. Mais cette structure est dans la perfectibilité. Mais lorsque les prophètes vont remonter les bretelles aux enfants d'Israël, ils vont leur dire, mais regarde les cieux, regarde la terre. C'est-à-dire que toi aussi, tu as une structure. Mais ta structure, elle est différente, mais tu as aussi une structure. Tu ne dois pas bouger de ce pourquoi tu es créé. Mais étant donné que ta structure est dans la perfectibilité, donc tu as la possibilité de sortir de toute structure. Ça, c'est le paradoxe humain. Mais ça ne veut pas dire que l'humain n'a pas de structure. Mais cette structure est dans la perfectibilité. C'est un paradoxe.
Ah, mais quelle difficulté. Ça veut dire finalement.
Excuse-moi, Antoine. Donc, ce qu'il va dire, c'est pour ça que nos maîtres disent dans le traité Makot Kav Gimel que nous avons vu la dernière fois, c'est pour ça que les commandements négatifs sont structurés 365 commandements négatifs. 365 commandements négatifs qui correspondent au jour de l'année solaire. Parce qu'en vérité, l'homme, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas de structure. Regardez, moi je ne suis pas du tout obsédé par le thème de l'homosexualité. C'est un thème qui ne m'intéresse pas spécialement du tout. Mais c'est intéressant. Parce que l'homme est libre. Alors, dans les dimensions des intellectuels, disons, qui n'ont pas la Torah, si je peux me permettre, on pourrait dire, si l'homme est libre, donc l'homme n'est pas limité par sa dimension corporelle, mais il est dans le choix. Donc, il peut être né homme, il peut se choisir femme, il peut naître femme, il peut se choisir homme. Ça, c'est intéressant parce que dès que quelqu'un devient un peu intellectuel, en tout cas dans nos congrès, c'est presque automatique. Moi, je me suis toujours demandé comment ça se fait. Comment ça se fait ? Alors là, moi, ça me donne ce que nous voyons, ça m'aide à comprendre ça. Parce que fondamentalement, l'homme est optionnel. Ce qui n'était pas optionnel, si l'homme n'était pas optionnel, il ne pourrait pas progresser. Ça veut dire, l'humain était prévu à l'avance, ben, il serait comme un cheval, il serait comme un colibri, il serait comme un arbre. Or, l'humain est dans la perfectibilité. S'il est dans la perfectibilité, il est dans l'option. Tu peux te perfectionner ou tu peux ne pas te perfectionner. Mais ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas de structure. Sa structure, c'est qu'il est enjoint de faire les actes qui vont le parfaire. Ça, c'est ça sa structure. Il a 365 interdits qui lui disent ne sors pas de ta structure.
On est dans le paradoxe, c'est-à-dire toujours, si tu n'as pas la Torah, bah, t'es perdu, quoi. Tu vas sentir qu'il y a une limite, que t'as une liberté qui est autre que d'être simplement dans le biologique ou dans l'ordre de la nature. Et du coup, tu vas vouloir l'exercer à ton bon plaisir.
Voilà. Et ça nous aide à comprendre ce phénomène. Ce n'est pas la base de ce que dit le Maharal, mais ça m'aide à comprendre ce phénomène. Comment ça se fait? Vous voyez, vous lisez, disons, par exemple, on achète un journal bien de droite, bien, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce que ça s'appelle, parce que même le Figaro, etc., il est dans le mainstream aujourd'hui. Il y a un bon journal de droite, ça existe encore, là ? Non.
Le Figaro,
ouais. Non, le Figaro, moi, je trouve que c'est gauchiste un peu. Hein.
Ouais, ça devient.
Ça devient gauchiste. Hein. Ces derniers temps... Non, mais tu vois, la dimension de universitaire, des gens qui réfléchissent, automatiquement, ils deviennent dans l'homme est optionnel. Ça, c'est comme ça. Tu vois, par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, il y a les intellectuels, ils abordent Trump. Moi, je ne connais pas bien qui c'est Trump, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais et un des indicateurs, c'est le fait que il est contre les mouvements LGTM. Donc ça veut dire c'est le négateur de la pensée. Quelqu'un, il nie la pensée, il nie les mouvements LGTM. C'est comme ça en Occident. Je ne sais pas comment c'est en Chine, je ne sais pas comment c'est en Inde, je ne sais pas comment c'est en Iran. mais en tout cas dans les pays dans lesquels on vit, c'est toujours comme ça. Or ça, le Maharal nous aide à comprendre ça. Ça nous aide à comprendre que parce que l'homme fondamentalement est optionnel.
Mais c'est parce que dans leur esprit, il fait ça parce qu'il est chrétien.
Mais non, il fait ça.
Mais si, c'est tous ceux qui se revendiquent de nier les LGTB, ils se revendiquent d'être chrétiens. C'est sur ça qu'ils fondent leur appui. Ils disent, on est une société qui a des valeurs chrétiennes, on n'est pas LGTB. C'est comme ça. C'est pour ça que cette opposition, elle est là-dedans.
Possible.
Ah, c'est possible. C'est possible. Mais ce que je vois, c'est que c'est lié à des gens qui réfléchissent. Mais pourquoi, s'ils réfléchissent, ça arrive à ça? Alors ça se comprend. Parce qu'ils arrivent à comprendre la liberté humaine. Ça, c'est vrai. Mais qu'il y a une liberté humaine fondamentale. Et que l'homme n'est pas déterminé, n'est pas incompatible avec le fait que l'homme a une fonction et un destin précis et des choses précises à faire. C'est ça le paradoxe. C'est pour ça, dit le Maharal, qu'il y a 365 commandements négatifs que à l'homme, tu as oui un destin, tu as oui une structure, tu as oui une vocation, comme le soleil. Le soleil domine la réalité, que la réalité ne doit pas sortir de l'ordre qui lui correspond. Toi, humain, tu ne dois pas sortir, nonobstant ta liberté, tu ne dois pas sortir de l'ordre qui te correspond. Ça, c'est un paradoxe. Ça, c'est un paradoxe. C'est ça ce qu'il est en train de nous dire. OK ? Omnam. Amalato aliede amasim elokiim. Le niveau de l'homme est par des actions divines. Kemo shel ba'er le ma'ala, mais ma'ase yadav shel adam shem yoter na'im shubarim et ma'ase ateva. Par l'œuvre des mains de l'homme qui sont plus belles et plus magnifiques que la nature. Car l'œuvre de l'homme, les actions de l'homme, ma'ase elokiim. Ce sont des actions divines. Et d'avarzem yuchad ba'adam, ça c'est spécifique à l'humain. Et qu'Hashem ratza Hashem itbara les akot et Israël b'shne mine mitzvot shem lo tase ve'ase. Lorsque Dieu a voulu donner du mérite à l'homme par deux dimensions des commandements, qui sont commandements négatifs et positifs. Shem mitzvot lo tase em shemishvor aseder. Les commandements négatifs. Que l'homme doit préserver la structure qui revient à l'homme, qui ne doit pas sortir de sa structure. Donc ici, vous voyez ici, c'est vraiment un paradoxe. Et là, ça veut dire, parce que la structure de l'homme, ce n'est pas une dimension de limitation, bien au contraire, c'est la dimension qui correspond à l'homme. C'est quoi ? Des actions divines qui sont les commandements de la Torah.
Magnifique.
Mais ça, c'est je ne sais pas comment le Maharal est toujours, moi je suis perplexe, comment il a réussi à structurer des choses tellement subtiles. Je ne sais pas. Pour moi, ça, je trouve que c'est de la prophétie. Ce n'est pas normal. Alors, c'est pour ça, Nathan et Israël, Minyan à Mitzvot, qui Mitzvot, Yemot à Hama. C'est pour ça, il a donné à Israël le nombre des Mitzvot selon le nombre des jours du soleil, qui Kovar, Amarnou, car nous avons déjà dit, car Hama, Ishmirat, Seder, Anim, Saim, car le soleil est la préservation de l'ordre des réalités existantes. Mais Yamea M. Shin Samer E, c'est 365 jours. Velu Shin Samer E Yamim M. Ashlimim Amitat Malchut Achama. Et c'est 365 jours. Parfaire. Le troisième personne du pluriel du verbe parfaire, ça se dit comment?
Parfait.
Il est parfait. Aïe, ONT. Il parfait. D'accord. Donc, Adida Khama, alors, donc ces 365 jours parfaits, la réalité de la royauté du soleil, comme les membres de l'homme, qui Adida Khama, Shem Shin Samere, Gomeren, Mamshalta, Ad Shemispar, Ze, Shul Shisame, Mesugal, Batsmo, Shibirata, Seder. Donc 365 jours est le déploiement de la royauté du soleil, en cela que le soleil domine toute réalité. Et ce chiffre de 365 jours exprime la spécificité de la Shmirat HaSeder, de la préservation de la structure. Ou Bilti Yetzia Min Seder HaMetziou, de ne pas sortir de l'ordre de l'existence, de la réalité. Le Fikar Kacher Natam Hashem Itbarar Torah l'Israël, lorsque Dieu a donné la Torah à Israël, Hacher Israël Nirchevu Kol HaMetziout, de manière que Israël est l'existence même. Kemo, bon alors ça c'est aussi Monsieur Fedida, vous avez fait un doctorat ou vous êtes seulement agrégé ou désagrégé, Monsieur Fedida? Tu as fait un doctorat?
Je suis désagrégé. Et j'ai un...
Tu as un doctorat? Oui?
Oui.
Oui, d'accord. Alors, moi, je propose un nouveau sujet de doctorat. Le concept d'existence dans l'œuvre du Maharal de Prague. Ça te plaît, là?
Oui.
Hein? Parce que là...
Non, moi, je m'en occupe.
Hein? Pourquoi? Parce que ça, c'est un mot clé dans le Maharal, que Israël est l'existence du monde. Hein? Bon, ok. Alors, ok. Donc, regardez, on va s'arrêter là pour le moment. Hein? On s'arrête là. Donc ici, on essaie de synthétiser, si on peut le faire en deux phrases. Donc, le Maharal nous dit des très grandes choses. Que la réalité du monde, on pourrait dire qu'on peut analyser qu'il y a deux éléments clés dans la réalité du monde que nous connaissons. Il y a le soleil et le roi de la réalité de la nature, et un autre élément central qui est l'humain quelque part, et une autre dimension de royauté, qui est la centralité et le but de cette création. Mais quelque part, l'humain s'oppose à la première réalité, s'oppose, mais quelque part, est aussi à l'intérieur de la réalité de la nature. Il n'est pas hors nature complètement. Il s'oppose à la nature tout en étant à l'intérieur de cette structure. Mais sa structure qui lui revient n'est pas d'être un bon sauvage béant en mangeant des bananes. Ouais, non, c'est pas ça. Mais c'est en développant la dimension des commandements divin qui lui apporte sa structure, Or, comme ces éléments divins lui amènent une progression et une acquisition d'une dimension qu'il n'a pas a priori, ça doit être dans une possibilité d'une liberté totale. Mais cette liberté totale n'exclut pas le fait qu'il a une vocation précise qui s'impose à lui. Voilà, ça c'est un paradoxe qui est, que le Maharal a réussi à formuler. Bien. Ok, bien, merci les amis. Nous, on passe maintenant à l'étude de Gemara.